Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un épisode qui posera inévitablement la question du point de vue, de notre point de vue. Pourquoi choisir de raconter cette histoire-là parmi tant d'autres, ce témoignage particulier plutôt qu'un autre? Pour dire quoi? Pour démontrer quoi? Pour donner simplement à voir un bout de réel brut, une tranche de vie, des personnes qui existent et pour cela même mériteraient qu'on les entende? En vérité, je ne crois pas. À chaque fois qu'on choisit une histoire, qu'on fait une coupe, qu'on supprime cette phrase ou qu'on garde ce bout-là, on a une petite idée derrière la tête. On veut donner un sens, une direction, un rythme, qui apparaissent de manière plus ou moins claire. Or parfois, l'idée qui nous intéresse, ce qu'on veut montrer, comme aujourd'hui, c'est l'ambiguïté, la complexité. Car voici une histoire qui est faussement simple, où il n'y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, les détenteurs du bien et ceux qui ont tout faux, même si dans la deuxième partie du récit de Camilla, il y a moins de doutes. Quand les bobos rencontrent les ruraux, comment ça match? Eh bien, c'est compliqué. Et en voici le récit signé Pauline Mocor.
Moi, c'est Camilla. Je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Je suis mariée avec Blandine. Nous habitons aujourd'hui dans un village qui s'appelle Noyères-sur-Serein, dans l'Yonne. Ça va faire 6 ans qu'on est dans cette maison. On a acheté une maison. Donc la maison telle qu'on l'imagine à la campagne, la petite maison en pierre avec le jardin, l'espace. La pollution sonore, c'est les tracteurs pendant les moissons ou ce sont les oiseaux au petit matin. La vie telle qu'on l'imagine à la campagne, quoi. En fait, quand on s'est rencontrés, qu'on habitait à Paris, on s'imaginait plus tard avoir une maison, des animaux, tout ça. Et puis, en fait, voilà, ça s'est fait parce que Blandine a trouvé ce travail à Auxerre. Et on a eu un vrai coup de cœur pour cette maison. Ben, c'était au mois d'avril qu'on l'avait visité. Il faisait beau, c'était fleuri. Enfin, et on s'est dit, waouh, dans ce fantasme de la campagne, c'était exactement ça qu'on imaginait. Je pense que ça a commencé un peu à déchanter ouais, au bout d'un an, puis surtout l'hiver. Bah, l'hiver, en fait, c'est un peu plus triste. Le truc, c'est que dans le village, bon, on est les plus jeunes. Certaines personnes viennent vers nous. Par exemple, j'ai le cas d'un voisin qui vient devant chez moi et qui nous dit « Ah, vous venez de vous installer, vous avez acheté cette maison, et votre mari, qu'est-ce qu'il fait ?» Donc moi, je le reprends, on m'accompagne. Et là, « Ah, vous êtes comme ça !» Bon, bah, je pense qu'il a été très surpris, parce que c'est pas ordinaire pour eux, on sort de l'ordinaire. Du coup, bon, ça c'était les premières approches avec les voisins, il y avait les collègues, mais il n'y avait pas de lien plus que ça avec les collègues, en tout cas de ma part. On avait un tout petit cercle qu'on n'arrivait pas à élargir. Voilà, je pense que peut-être qu'on dégageait quelque chose de différent. De toute façon, ça se voit qu'on n'est pas d'ici, parce que les gens, de toute manière, ne nous connaissent pas. Donc, ils savent qu'on n'est pas d'ici. Donc, quand on n'est pas d'ici, qu'on ne vient pas d'ici, en fait, on est tout de suite remarqué. Ils savent. On sentait, au début, on pouvait nous dire qu'on faisait parisienne, qu'on était bobo. Clairement, on cache... Enfin, déjà, ma femme, donc, elle est de région parisienne, mais il se trouve qu'elle est d'origine bretonne. Bon, elle dit qu'elle est bretonne. Moi, je dis que je suis marseillaise, je parle pas forcément de mon passage à Paris, j'ai vécu 5 ans à Paris, j'en parle pas forcément. Voilà, je suis marseillaise, bon, ça passe un peu plus, je pense. Du coup, un soir, je suis invitée par une collègue chez elle pour un barbecue, et il se trouve qu'il y a du monde. Donc aussi bien des collègues de travail que des amis à elle, des personnes que je connais pas... J'y vais avec Blandine, on y va toutes les deux. Bon, il faisait beau, c'était... Voilà. Et à un moment, en fait, Blandine s'arrête de boire pendant le repas parce qu'il faut qu'on rentre. Et là, quelqu'un veut lui servir à nouveau un verre de vin. Elle dit non, je conduis. Oh, ça va, tu peux quand même en boire un dernier. Vu la route que tu prends, de toute façon, il n'y aura pas les flics, tu vas pas souffler. Et Blandine finit par dire... Il y a peut-être personne, il n'y a peut-être pas danger, mais enfin, il y a les animaux, quoi. Il y a des animaux qui traversent, surtout à cette heure-là, quand il fait nuit. Et là, la personne en face rigole et lui dit « Non, mais tu vas quand même pas lui donner du sentimentalisme sur le gibier, quoi. » Et puis là, il y en a une autre qui raconte, qui dit « Ah bah tiens, moi, c'est il n'y a pas longtemps, j'ai percuté du gibier, un chevreuil, il a dégueulassé ma voiture. » nous, on réagit avec Blandine, oh là là, mais et lui, le chevreuil, bah, comment ça, bah, il est mort, le chevreuil. Enfin, et donc nous, on a été touchés de la mort de cet animal, on l'imagine. Enfin, et là, vraiment, il y en a plusieurs qui rigolent, dont cet homme qui voulait lui resservir du vin, dont, enfin, il faut peut-être pas déconner. Enfin, et puis quoi encore? Vous allez nous dire que vous êtes végétarienne et tout ça. On dit, bah non, je suis pas végétarienne, mais quand même, j'ai pas envie, en fait, de causer la mort d'un animal. C'est... Je me réveille pas en me disant, je vais tuer du chevreuil ou du sanglier. Et là, en fait, tout de suite, ils ont... Je pense qu'eux-mêmes se sont sentis attaqués par ce que je suis en train de dire. Non, mais tu vas pas commencer avec tes discours anti-chasse de nana de la ville. Non, mais les bobos, il faut arrêter. Vous allez quand même nous laisser tranquilles. T'y connais rien. Tu sais même pas de quoi tu parles. Alors, je suis en effet anti-chasse, mais j'ai bien appris qu'il ne fallait pas l'exprimer. C'est leur tradition ici, c'est très culturel. C'est quelque chose de tellement intime pour eux et d'identitaire pour eux que de toute façon, c'est compliqué d'en débattre. Donc finalement la discussion, elle a fini par s'il n'y a pas de réponse en face, ça s'est effrité. Mais après quand même, en fait, il y avait toute la soirée des espèces de petites piques, des choses sur le Parisien, sur la personne de la ville, sur les écolos et puis tout. C'était vraiment des propos de ce type-là, les gauchos. Et puis au bout d'un moment, on regarde l'heure et on se dit on y va. Au bout d'un moment, on a quand même rencontré des gens. Alors très peu, hein, mais on en a quand même rencontré. Et puis il se trouve qu'un jour, c'est Blandine alors qui va chez le coiffeur. Et en fait, elle sympathise avec le coiffeur en parlant d'une émission de télé, RuPaul Drag Race, qui est un concours de drag queen. Elle parle de ça avec le coiffeur, il rigole, il sympathise. Elle lui parle de moi, lui, il lui parle de son copain. Donc elle revient à la maison, elle me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, trop cool, un gay, il a un copain, il regarde RuPaul, on a parlé de ça. » Enfin, et elle me dit « Vas-y, donc j'y vais. » Pareil, ça se passe bien, on parle toujours de l'émission. Et à la fin, il me dit « ça te dit pas, on s'est changé de numéro, ça serait peut-être trop bien qu'on se fasse quelque chose. » Mais carrément, donc on se contacte et puis on finit par rencontrer son copain, ça se passe bien, ils sont jeunes. Enfin, on crée quelque chose où on va se faire des restos, des bars. Donc c'est top. Et puis, en fait, arrive le jour où on a à la maison un apéritif. Donc, il y a aussi notre copine qu'on a rencontrée avec eux. Et il se trouve que ce jour-là, en fait, c'était donc la veille du second tour des dernières élections présidentielles. Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et là, il y en a un qui dit « Vivement Marine ». Et donc, moi, je rigole, Blandine rigole. Parce que vraiment, en plus, depuis qu'on les connaissait, ils n'avaient jamais eu un propos limite. Enfin, on n'avait jamais entendu quelque chose. Voilà, on se doutait qu'on n'était pas du même bord, mais pas à ce point. Et moi, je réponds en effet que ça m'embête ce second tour de nouveau devoir voter Macron au second tour. Mais il n'y a pas le choix. Et là, ils me disent si, il y a le choix. Et les trois sont surpris. Si, il y a le choix. Et puis je creuse et je lui dis mais t'as voté qui au premier tour? J'ai voté Marine. Ah! Et là, il me dit, mais pourquoi, toi, t'as voté qui au premier tour? J'ai dit, j'ai voté Mélenchon. Et là, avec Blandine, on s'est retrouvés bêtes. Et puis, en fait, on a dit, mais on comprend pas, mais pourquoi? Pourquoi vous votez Marine? Et puis, surtout, au couple de garçons, on s'adresse à eux. On dit, mais surtout qu'il y en a un des deux qui, quand même, disait qu'il désirait être père, ce genre de choses. Je dis, mais c'est pas en votant Marine que tu vas pouvoir être papa. Enfin, c'est. Non, elle n'a jamais rien dit contre les homos. On lui dit, c'est quand même pas trop en faveur de nos droits. Je finis par leur dire, mais vous vous rendez compte que quand même, elle est quand même, son parti, son programme est profondément raciste. Et pas du tout. C'est pas raciste que de dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Tu crois qu'à Saint-Denis, il n'y a pas du racisme anti-blanc? Enfin, on a le droit à des discours. Un moment, il y en a un peu marre de ces femmes voilées, on est en France, il faut qu'elles comprennent qu'on n'est pas dans leur pays. Tu peux pas nier que la France est construite sur le catholicisme. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où il y aura des mosquées de partout. Enfin, on commence à avoir ce genre de propos-là. Non, mais de toute façon, les étrangers, puis d'un coup, les terroristes, les islamistes, le djihad, enfin, une espèce d'amalgame. Tout le monde est ensemble, quoi. Puis justement, tu dis parce que je suis homo, je ne devrais pas voter Marine, mais justement, je suis homo et je vote Marine parce que je suis en danger avec les Arabes. C'est les Arabes qui nous agressent, c'est une religion homophobe. Puis j'essaye de changer que ça aille pas que sur l'immigration. Je dis mais quand même, Marine, c'est surarmer la police, que la police municipale soit armée, que plein de choses. Enfin, je dis moi, ça te dérange pas toute cette violence? Et là, il me dit ben non, justement, mais pour moi, tous les policiers devraient être armés et ça devrait se passer beaucoup plus comme aux États-Unis. Et là, il fait le geste du pistolet, tu voles, pam pam. Si t'es délinquant, si tu fais du mal à la société, eh ben, s'il faut te tuer, on te tue. Ben, bien sûr que je suis pour la peine de mort, bien sûr qu'il y en a ras-le-bol de ces prisons, ça nous coûte de l'argent en plus. Et puis regarde, ben, les prisons, il n'y a que des Arabes ou des Africains dans les prisons. Enfin, tu vois bien qu'il y a un problème avec eux quand même, ils n'arrivent pas à s'intégrer en France. Enfin, que des choses comme ça. Et là, il y a un froid qui se passe. Et du coup, bah, j'envoie un message à d'autres amis, un peu, qui savaient qu'on était ici avec ses copains. Et je leur dis, oula, ça se passe mal, on est en train de parler politique et ça vire à quelque chose de violent. Et donc là, ils nous disent, bah, écoutez, nous, on est dispo, on va venir. On n'a plus du tout parlé de ça, ils sont arrivés. Eux, ils ont fait comme si de rien n'était, comme s'ils ne savaient rien, évidemment. Et puis, ils ont lancé plein d'autres sujets. Et puis, en fait, ils ont un peu détendu tout le monde et puis on a pu passer le reste de la soirée à peu près normalement, quoi. Et du coup, là, ses amis, ben, en fait, on ne les voit plus. Donc on passe de « on se voit pas tous les week-ends, mais pas loin » à « on se voit plus ». On n'arrivait pas à faire plus de rencontres que ça, malgré le travail, malgré quand il y avait des événements dans le village, on essayait d'y aller. Les gens voyaient nos têtes en permanence, mais on ne sympathisait pas. Donc j'ai l'idée de faire un sport collectif. Donc je vais au club de rugby d'Auxerre, je m'inscris. Et là, du coup, je rencontre toutes ces nanas qui font du rugby. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi bien des filles de 18 ans que des filles de 35 ans. Il y a des personnes avec lesquelles je me sens bien assez rapidement. Et puis d'autres, pas trop. Mais en fait, j'ai quand même pris cette habitude, de toute façon, depuis que je suis dans Lyon, de lisser qui je suis. Pas qu'on sente que je vienne, moi, de la grande ville, quoi. Et donc, avec mes goûts, la grande ville. Donc, par exemple, c'est le rugby à la troisième mi-temps. Donc, ça nous arrive souvent de mettre de la musique. Et là, c'est pas du tout de la musique que j'écoute. C'est la musique, je pense, très, très commerciale. Et en fait, je me rends compte que c'est de la musique qu'elles écoutent pour faire la fête, parce que c'est ce qui est passé en boîte ici. Donc, en fait, elles ont l'habitude de faire la fête dessus. Et donc, tout le monde chante. Elles connaissent les paroles par cœur, donc des musiques. Et donc, en effet, moi, je suis toujours à part, et même aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe, parce que je ne connais toujours pas les paroles de ces chansons, elles vont me dire, mais toi, vas-y, mets de la musique. Et donc, ça a dû m'arriver 2-3 fois de mettre de la musique. Je vais mettre des trucs sur lesquels, moi, je fais la fête avec mes amis à Paris, et en fait, ça fait un flop total. Mais du coup, voilà, je suis la différente de l'équipe, ne serait-ce que de par mon orientation sexuelle. Je suis mariée avec une femme, mon look, parce que au rugby, en tout cas dans mon équipe, elles sont toutes ultra féminines, moi pas du tout. Mais tout, en fait, culturellement, je sais pas, parfois, il y en a une qui va parler d'un truc, je sais pas quel sujet, et moi d'un coup, je vais lui dire, ah ben tiens, mais ils en ont parlé de ça ce matin à la matinale de France Inter. Et là, il y en a 2-3 qui pouffent, parce que toi, t'écoutes, madame, écoute France Inter. On a créé une association également des joueuses de rugby. D'ailleurs, je suis la présidente de l'association cette année. Le but de cette association, c'est à la fois de faire la promotion du rugby féminin dans le coin et surtout d'avoir de l'argent pour financer un voyage de fin d'année. Et donc l'année dernière, on est parti à Marseille. C'est moi qui ai proposé Marseille, c'est moi qui ai organisé tout le voyage, j'ai fait le programme, j'ai réservé le logement, je suis super contente. Je pars avec 18 copines à Marseille. Moi, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire découvrir de Marseille. Donc ça voulait dire aussi bien le beau que le pas beau, parce que c'est ça Marseille. Par exemple, j'ai un super bar que j'adore au quartier de la Belle de Mai, et en marche dans le quartier de la Belle de Mai, il y a des rats, c'est sale, donc elles sont toutes là, ah, il y a tout le temps des « mais t'as vu, mais c'est sale, mais t'as vu comme il est garé, mais qu'est-ce que c'est que cette ville ?» Mais des choses, elles sont choquées partout. Puis c'est le quartier de la Belle de Mai, donc la population à la Belle de Mai, bah, c'est une population pauvre. Qui dit population pauvre, surtout à Marseille, dit une population assez étrangère, enfin, c'est, ou en tout cas qui vient d'une immigration, qui vient, enfin, du coup, bah, là d'un coup, j'entends des, non mais on n'est pas en France ici, quoi, mais on n'est pas en France, enfin, mais t'as vu ça. Et jusqu'au moment où on arrive dans le bar, et là, ouf, elles finissent par se détendre, tout le monde se détend. Au final, elles se sont régalées, mais quand même. Ce que je voulais leur faire découvrir, cette identité-là, ça passe pas. Donc on n'y retournera pas, et je pense qu'on n'ira pas. À un moment, je m'étais dit, tiens, peut-être Marrakech ou ce genre de choses, mais je pense qu'en fait, non, on n'ira pas. Je pense que l'épreuve la plus violente, pour moi, elle a été au travail. Un jour, je suis recrutée donc, dans une association, la protection de l'enfance, sur la Vallonnée. On me dit que c'est une structure voilà, d'accueil de jeunes cas complexes. Et donc moi, on me dit vraiment, voilà, vous êtes là en renfort pour ce jeune en particulier. C'est vraiment pour lui et c'est en accompagnement. Donc, et d'ailleurs, quand on me parle de ce jeune-là, c'est cette jeune et c'est Bénédicte. Mais Ben se présente à moi, il me dit « je m'appelle Ben ». Et quand il parle de lui, bah, c'est lui, c'est pas elle. Et donc je comprends tout de suite qu'on est face à un jeune homme qui en tout cas s'identifie comme un jeune homme. Et en fait, un jeune homme qui est en effet assez compliqué, avec des tentatives de suicide très régulières, hebdomadaires. Des scarifications quotidiennes sur les parties génitales, la poitrine, ce genre de choses. En effet, très compliqué. Mais sauf que j'ai une équipe qui l'appelle Bénédicte en permanence, lui disent « elle » en permanence, alors que lui est tout le temps en train de leur dire « non, c'est Ben et c'est il ». À un moment, mes collègues, je les reprends, alors que je venais d'arriver, je leur dis « mais il y a quand même de quoi devenir fou ». Et « ouais, mais non, mais tu comprends pas, tu viens à peine de la connaître, tu verras, non mais elle t'embobine, tu sais, elle est folle, certainement schizophrène ou bipolaire, enfin... » Bon, Ben a 16-17 ans, il n'y a aucun diagnostic de fait, mais en effet, un traitement d'éléphant. Enfin, j'ai jamais vu dans ma carrière un jeune prendre autant de médicaments, mais un truc, c'était juste fou. Et même ces psychiatres n'écoutaient pas. C'était une pathologie pour eux. Il avait un trouble de la personnalité, plusieurs personnalités, il y a un délire qui se nourrissait autour d'un fantasme d'être un garçon. Et donc, là, en fait, je me dis, mais ce jeune, il a besoin d'être suivi pour son parcours trans. Donc, je veux absolument lui faire rencontrer un pédopsie ou une pédopsie sur Paris, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus qui sont spécialisés dans ces questions-là. J'en trouve une à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et elle me dit « Ok, mais en revanche, les choses ne se font pas comme ça, ce n'est pas une simple consulte, il faut qu'il y ait un transfert en fait, du dossier de son psychiatre à moi. » Donc, je m'entretiens avec le psychiatre de Ben pour qu'il puisse transférer le dossier à la nouvelle psychiatre à Paris. Et en fait, on me dit « Mais pourquoi faire ? Ben a déjà un suivi, il n'y a pas besoin qu'il rencontre un autre psychiatre. » Et donc je me suis battue, je suis allée à une synthèse pour ce jeune avec toute l'équipe soignante, où on m'a rionné. J'appelais tous les jours le secrétariat de ce psychiatre, on me rigolait au nez, j'ai envoyé des mails. Et jusqu'au moment où je pense qu'à force de harceler, ben là, ils ont dû se dire « bon, allez, ok ». Et donc ils ont fait ce courrier médical. Et donc Ben a enfin eu son rendez-vous avec cette psychiatre à Paris. Évidemment, c'est moi qui l'accompagne à ce rendez-vous. Mais il se trouve qu'il y a un infirmier dans l'assaut, ben Nicolas, qui est mon ami, avec qui j'ai sympathisé, qui est lui-même une personne ben, homosexuelle, qui a une sensibilité sur ce sujet-là. Donc nous voilà partis tous les trois à Paris pour rencontrer la psychiatre. Et là, la psychiatre, à l'issue du rendez-vous, dit bah, « moi, en effet, je pense que Ben a toute sa place dans mon suivi. Je pense qu'on est clairement face à une dysphorie de genre, quoi. » La semaine qui suit, comme toutes les semaines, on a une réunion d'équipe avec toute l'équipe, la chef de service. Et là, le directeur de l'association était présent. Il est quasiment jamais présent. Sur cette réunion-là, il est présent. Mais donc, on fait un compte-rendu du rendez-vous, comment ça s'est passé à Paris pour Ben. Donc voilà, le topo classique d'une réunion d'équipe, quoi. Et en fait, le directeur finit par nous interrompre. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi c'est vous, là, qui l'avez accompagné, ce jeune, à ce rendez-vous? C'est quand même un sacré hasard que ce soit vous. Et pourquoi c'est que vous, d'ailleurs, qui l'appelez Ben? Et pourquoi c'est... Et d'ailleurs, lui, il appelle Bénédicte, et il dit « elle ». Et en fait, il commence même à nous dire « non, mais on est quand même bien d'accord que c'est une malade mentale ». Et en fait, Nicolas lui explique ce que c'est que la transphobie ordinaire, quoi. Cette transphobie que subit Ben tous les jours, le simple fait qu'on continue de l'appeler Bénédicte, qu'on continue de lui dire « elle », alors qu'en plus, il reprend. Mais il dit, vous savez, la transphobie ordinaire, ça fait mal, ça blesse, et il a une grande souffrance, ce jeune. Et en fait, le directeur dit, pour lui, il n'y croit pas. Lui, il ne comprend pas, il rigole, il dit, non, mais je ne dois pas être de la bonne époque, je dois être trop vieux, et je ne comprends pas. Mais quand même, il dit, et les autres jeunes, ça ne les perturbe pas? Je lui dis, oui, mais en fait, ce qui les perturbe, notamment, ces autres jeunes, c'est que... Donc, il y a un jeune qui dit qu'il s'appelle Ben et c'est un garçon, mais j'ai des éducateurs, des adultes en face de moi, qui... l'appelle Bénédicte et qui disent que c'est une fille. Donc du coup, tout le monde dit, mais Ben, il ment. Et je lui fais quand même savoir que sur le peu de jeunes qu'on a sur ce service, la plupart se disent bisexuels ou homo, ce genre de choses. Là, il me dit, comment ça? Je dis, en fait, si, c'est des jeunes qui se questionnent beaucoup, mais comme beaucoup, beaucoup d'adolescents, de toute manière, beaucoup sur leur sexualité, et qui, en fait, ont une sexualité complètement ouverte, quoi. Et ça s'arrête, et puis on passe à autre chose. Moi, quelques jours après, je suis partie en congé parce que je me suis mariée. Et quand je reviens de mon congé de mariage, donc je suis toute contente. Et là, en fait, je reçois une convocation de mon directeur. Et donc, je ne comprends pas trop. J'arrive dans son bureau, il a l'air assez grave. Tout de suite, en fait, on rentre dans le vif du sujet. Il me dit, j'ai repensé à cette réunion, j'ai repensé à ce qui a été dit. Et j'ai un gros problème parce qu'en fait, là, j'ai été face à des militants qui faisaient du prosélytisme. Et là, vous m'avez quand même accusé en réunion d'être transphobe. Et ça ne me convient pas. Et surtout, le militantisme n'a pas sa place au travail. La propagande LGBT n'a pas sa place ici. Si je rentends parler de ce genre de choses, ça se passera très mal. Et de là, ça a été le début de l'enfer pour moi, quoi. Tout était prétexte pour s'en prendre à moi. Il était là, maintenant présent, à toutes les réunions. Dès que je disais quelque chose, il m'interrompait. Je disais n'importe quoi. Il fallait plus que j'accompagne ce jeune. J'étais référente d'un autre jeune. Non, tu seras plus référente non plus de ce jeune. À chaque fois que je mettais quelque chose en place, non. Et un jour, j'ai ma chef de service qui vient me voir et qui me dit, il y a une cadre du département qui l'appelle et qui lui dit, mais apparemment, tu as une militante LGBT dans ton équipe qui fait de la propagande pour tourner tous les jeunes en trans ou en gay. En fait, mon directeur était à une réunion, donc je ne sais pas trop quelle réunion, mais avec plein d'autres cadres, d'autres assos, et dans des cadres du département, où il aurait dit, j'ai une sorcière LGBT dans un service qui fait du militantisme et du prosélytisme LGBT, et qui cherche à tourner tous les jeunes, à les rendre tous trans et tous gays. Il y a eu une réunion du CSE, donc le comité social de l'entreprise, où il y a écrit sur le compte-rendu noir sur blanc, sorcière LGBT qui fait du militantisme, avec mon nom. Donc là, d'un coup, je comprends qu'il m'a pris en grippe et que je suis foutue. Il monte une partie de l'équipe contre moi. Il y a évidemment une autre partie de l'équipe qui prend plutôt ma défense. Par exemple, j'ai une collègue qui a pris mon parti, qui a reçu dans sa boîte aux lettres une lettre de Corbeau, lui disant « Nous allons balancer tout ce que vous êtes en train de faire, on va tout dire, enfin, au travail. » Et cette lettre, du coup, c'était la vraie lettre du Corbeau telle qu'on l'imagine, la feuille A4 avec les lettres découpées minutieusement, des lettres de magazines, de journaux, enfin vraiment la lettre de Corbeau, comme dans l'affaire du petit Grégory ou ce genre de choses. Et elle a fait installer des caméras devant chez elle, parce que quand même, elle s'est dit, mais qui vient chez moi me met cette lettre? Bon, elle n'a jamais pu savoir. On avait clairement des doutes. Bizarrement, il y avait des collègues qui étaient, eux, dans l'autre clan, ceux qui étaient pro-directeurs, qui habitaient dans son village. Donc, on va dire qu'on se doutait que ça venait certainement de leur côté, mais ça n'a jamais été prouvé. Bon, et puis, j'ai fait appel aux défenseurs des droits, j'ai fait appel au syndicat, je me suis moi-même syndiquée, on a essayé de monter un dossier, on a découvert que ce directeur, c'était un directeur qui, sur ses réseaux sociaux, était pro-Poutine, pro-Éric Zemmour, complotiste, il ne se cachait pas d'être anti-vax, on était dedans. Donc, en fait, je représentais mais tout ce qu'il détestait. C'était, voilà, cette petite nénette mariée avec une femme qui fait tout pour qu'un jeune trans soit moins en souffrance. Enfin, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose avec le défenseur des droits et les syndicats parce qu'il y avait peu d'écrits, à part ce fameux compte-rendu du CSE. Mais finalement, sorcière, ce n'est pas une insulte. Donc, légalement, on ne pouvait pas faire grand-chose, il n'y avait pas matière. Donc, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, ça ne sert à rien, je ne vais pas me battre, mais j'ai démissionné. Ma chef de service qui était de mon côté, en fait, a fait jouer son réseau. Et donc, j'ai trouvé du travail tout de suite. Et là, un mois après, eh ben, j'ai appris que ce directeur est décédé. Il a été retrouvé plusieurs jours après parce que, bah, il était, en fait, c'était un homme qui était très seul. Et en fait, à un moment, j'ai une ancienne collègue, bah, celle qui a reçu la lettre du corbeau, qui avait démissionné elle aussi quand même. Et elle m'appelle, elle me dit, bah, tu sais, il y en a qui racontent que c'est toi qui lui as jeté un sort. Et je lui dis comment ça ? Elle me dit, bah, tu sais, il arrêtait pas de dire que t'es une sorcière. Il est mort chez lui, tout seul. Il est tombé, il était en peignoir. Il y en a qui disent, non mais c'est peut-être Camilla qui lui a jeté un sort. Et en effet, même ma femme dans son travail a eu des collègues qui ont pu lui dire, bah dis donc, j'ai entendu parler de certaines choses sur ta femme. Et que comme quoi son directeur, il serait peut-être mort à cause d'elle, des choses comme ça. Mais c'est enfin, en fait, comme à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, je me dis, mais on est où ? Et du coup, maintenant, on travaille toutes les deux sur Auxerre. Là, je suis dans une très, très grosse association dans le département. Et donc, c'est d'autres enjeux, d'autres problèmes qui m'embêtent beaucoup. Et on a toujours ce problème de, on va dire, de reconnaissance dans le coin. Alors certes, il y a le rugby, et tant mieux. Sur le lien social, ça nous a fait beaucoup de bien, vraiment. Mais on se reconnaît quand même pas dans ce coin, quoi. C'est quand même pas... Donc en fait, on est vraiment en train de réfléchir à partir quand même. Je pense que l'issue sera ça. Ça m'étonnerait qu'on reste encore très longtemps dans Lyon. Je pense pas qu'on arrive à s'intégrer suffisamment. On reste quand même encore à la marge. Ouais, on est différentes quoi.
C'était Camilla, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Alexandra Candy Longuet. Merci à Camilla et à Nicolas, l'attaché de production du Pied sur Terre. C'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue Sébastien. Et je vous signale, au cas où vous l'ignoreriez encore, que la nouvelle série d'Adila Benedjaizou est sortie. Elle donne la parole à des autrices et des auteurs de journaux intimes. C'est la première saison, il y a 5 épisodes, tous disponibles sur le site de France Culture ou l'appli Radio France et sur la plupart des plateformes.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.